On va revenir sur l'élection présidentielle en Roumanie. Premier tour hier, remporté haut la main par le candidat d'extrême droite George Simion. 40% des voix, seulement 20% pour celui qui sera face à lui au second tour dans 2 semaines, le maire de Bucarest. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po. L'autre candidat, donc, Nico Jordan, a posé l'enjeu. Ce sera un choix entre une orientation pro ou anti-occidentale. Vous le résumeriez aussi de cette manière ?
Non, moi je ne le résumerai pas comme ça, mais bon, M. Dan est en campagne, hein, donc évidemment, les arguments qu'il utilise ne sont forcément pas les mêmes que ceux qu'on utilise, nous, en sciences sociales. Ça me semble inexact, je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Simion, le candidat qu'on appelle de droite extrême et radicale, qui est arrivé en tête avec 40% des voix, eh bien, il n'a pas exactement, vous allez me dire c'est une nuance, hein, mais il n'a pas exactement le même profil que le candidat d'extrême droite qui était arrivé en tête lors de l'élection présidentielle de décembre dernier, élection qui avait été invalidée par la Cour constitutionnelle roumaine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que M. Simion, lui, son parti, AUR, appartient à l'échelle européenne, à la même famille politique que le parti Fratelli d'Italia de Madame Giorgia Meloni. Ce qui veut dire que M. Simion et son parti, AUR, ne sont pas, par exemple, anti-OTAN. Ils ne prônent pas une sortie de la Roumanie de l'Alliance Atlantique, hein, alors que c'était le cas du candidat d'extrême droite, M. Georgescu, qui était arrivé en tête, mais disons en étant soutenu grâce ou par l'ingérence russe. Et donc, c'est un candidat de droite extrême et radical, M. Simion, qui l'a emporté, mais qui appartient à cette famille politique qu'on appelle les conservateurs et réformistes européens qui sont au Parlement européen, qui sont très eurosceptiques, hein, mais pour autant qui ne sont pas europhobes, ça veut dire qu'ils veulent limiter les pouvoirs de l'Union européenne, mais ils ne veulent pas que leur pays, l'Italie dans le cas de Mme Meloni, ou la Roumanie dans le cas de M. Simion, ils ne prônent pas la sortie de l'UE.
Oui, d'ailleurs, il l'a dit, hein, il a répété qu'il n'était pas anti-européen. Lui, il tense la bureaucratie, l'élite de Bruxelles, voilà. C'est plutôt ça qu'on entend de sa part.
C'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur une idéologie qu'on appelle souverainiste, hein, c'est-à-dire où il s'agit à la fois vraiment de limiter, disons, les transferts de souveraineté, hein, d'une part, et d'autre part, il est populiste, dans la mesure où il est extrêmement critique vis-à-vis des élites, qu'elles soient celles de son pays ou celles de Bruxelles, parce qu'il considère que tout élu, en réalité, confisque le mandat qui lui est confié par le peuple à son profit personnel ou pour les intérêts particuliers de son parti. Hein. C'est ça ce qu'on appelle un parti anti-élitiste. Et donc surtout, il ne prône pas du tout la sortie de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique. Donc c'est pour ça que, j'ai envie de dire, avec les catégories qui sont celles de l'histoire ou de la science politique, c'est difficile de dire que M. Simion est anti-occidental. Mais je veux bien comprendre que dans le cadre d'un débat politique roumain, d'accord, où les mots ont des références et des connotations particulières comme dans chaque paysage politique national, quand M. Dan, son challenger, qui lui a fait 21%, donc deux fois moins, prépare la bataille de second tour, il s'adresse aux électeurs en disant, bah, en gros, dans un cas, vous allez choisir un ancrage avec, dans tout ce qui a été fait depuis la fin de la guerre froide et la chute du communisme. Et dans l'autre cas, vous allez choisir, vous choisiriez un candidat qui est plus proche de M. Orban, donc plus neutre. Qui est, voilà, parce que
et
c'est
alors
vrai
justement,
aussi que...
puisque vous mentionnez, vous avez évoqué Giorgia Meloni, vous parlez là de, oui, du Premier ministre hongrois, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Déjà, le fait qu'il arrive en tête là au premier tour et une éventuelle élection, si jamais c'était le cas, évidemment, on n'en est pas là et il y a beaucoup de questions de report de voix qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici. Mais est-ce que c'est quelque chose qui inquiète au sein de l'Union européenne ?
Oui, disons, alors, ça inquiète forcément parce que l'Union européenne, il faut bien la représenter comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une espèce de grande vie politique européenne où vous avez à la fois des familles politiques et en même temps des gouvernements de pays. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux parlements d'ailleurs. Hein. Il y a le Parlement européen élu par les citoyens au suffrage universel direct avec des groupes parlementaires qui correspondent à des familles politiques. Là, on citait le groupe parlementaire qui s'appelle l'Europe des réformistes et des conservateurs, qui est le groupe parlementaire européen dans lequel il y a à la fois Mme Meloni et M. Simion, là, celui qui est en tête aux élections roumaines, mais il y a aussi le PiS polonais, par exemple. Bon, voilà. Tandis que l'autre chambre, c'est ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, et là, il y a 27 membres qui sont à chaque fois un représentant ou un ministre des États membres. Donc, évidemment, si vous avez, dans une élection nationale, la victoire, en l'occurrence, d'un représentant de la famille politique de droite extrême et radicale, bah, du coup, ça modifie un peu les équilibres au sein du Conseil de l'Union européenne, où aujourd'hui, vous avez une grande majorité de conservateurs, démocrates chrétiens, droite dite de gouvernement, où vous avez ensuite pas mal de, enfin quelques sociaux démocrates, et où la seule représentante, enfin et actuellement il n'y a que deux représentants de la droite extrême et radicale, qui sont Madame Meloni pour l'Italie et Monsieur Orban pour la Hongrie.
Et donc si là, Monsieur ça Simeone pourrait modifier un certain nombre d'équilibres. Je vous remercie beaucoup Sylvain Kahn d'avoir été en ligne avec nous, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po.